tout ce qui ici fout le camp un peu, et qu'on voit foutre le camp. Il y a plein de choses qui sont vraiment saccagées. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de sauver tout ça. Voilà. Mais par contre, ma propre personne ne fait que passer, et je ne veux pas être, si tu veux, mis en valeur. Qu'on mette en valeur la pierre, les maisons, la beauté des paysages, aussi le fait qu'il y ait des gens qui habitent, tout simplement. On est dans un pays qui est, on n'est pas dans un pays qui est vide. C'est pas uniquement quelque chose de mort, quoi. Il y a des gens qui veulent vivre, habiter, avoir un métier, et qui sont très divers, très variés. Ça m'intéresse.
Patrick, comment tu as connu Marc Dombre ?
Comment j'ai connu Marc Dombre ? Je l'ai croisé parce que je venais beaucoup à Saint-Germain-de-Calberte à un moment donné. Et il fait partie un peu des personnalités qui sont arrivées ici il y a quelques dizaines d'années, on va dire.
C'est un néo ?
Je crois que oui. C'est un néo, mais à vrai dire, ouais. J'en suis pas certain. Je lui ai jamais posé cette question. Il a l'air d'un néo, en tout cas.
D'accord.
Bon, il ressemble, il a le.
C'est tout à fait le. C'est quoi quelqu'un qui a l'air d'un néo ?
C'est peut-être de la pudeur, j'en sais rien, hein. Mais j'aime pas qu'on parle de moi. Ce qui m'intéresse, moi, c'est dans ce que j'ai fait toujours, depuis qu'on est ici. J'étais passionné par ce pays, et quand on est arrivé avec ma femme ici, j'ai plus eu envie de partir. Et on n'en a plus bougé. Alors qu'avant, j'avais un peu la bougeotte.
Bonjour Marc.
Bonjour.
Bernard. Alors tu habites là.
J'habite
Tu es né ici, non ?
Non, pas du tout. Non, moi j'ai passé ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse dans l'Aveyron. Et puis avec ma femme et mon fils, on est venu s'installer dans les Cévennes, donc dans les années 74, quoi. Et puis cette maison, on l'a achetée et restaurée en 87 pour pouvoir y habiter.
Ouais.
Et donc, on habite là depuis 87.
Ouais.
Voilà. Et puis, c'est typique vraiment de l'architecture... Les vallées Cévenoles, quoi.
Allons-y.
Ici, on peut y aller de partout. Tu vois, par exemple, là, on est le long de la route. Le rocher, il a été taillé à la main. Tu vois la trace des outils qui ont taillé le schiste dans ces endroits-là. Tu vois ici, oui. ces petites marques qui sont... ancré dans le schiste.
Au burin, quoi.
Ils ont tout fait au burin, à la massette, ou avec des engins qu'ils avaient à l'époque, des petites pioches, enfin, et qui devaient forger et affûter au fur et à mesure pour pouvoir attaquer le rocher. Et puis, avec les résidus du rocher, ils bâtissaient des murs. Ils créaient des pierres, des petites pierres, des grandes pierres, enfin un peu de tout, et ça leur permettait de bâtir. Mm. Et c'est comme ça que, par étages successifs, ils ont monté les bancelles, les terrasses, les fameuses terrasses qu'on appelle ici des bancelles ou des faïsses. Voilà. Et donc là, tu vois, la maison, elle est assise sur un rocher qui a été taillé à la main et qu'on retrouve à l'intérieur, à plusieurs endroits. Et ensuite, si on monte au-dessus, on voit tous les aménagements de terrasses, les aménagements de béal, il y en a plusieurs. Bon, il n'y a plus que celui-là qui sert, mais il y en avait un à tous les niveaux. Parce qu'à tous les niveaux, il fallait pouvoir irriguer un jardin ou une... ou bien une...
Même une prairie.
Une prairie, tout ça. Hein, c'était... Ce qui est important ici, c'est de bien gérer l'eau. C'est-à-dire que quand il y a des épisodes cévenols, quand il pleut très fort, il faut canaliser. Ouais. Il faut faire attention, quoi. Si tu ne fais rien, tu peux avoir des dégâts considérables en quelques années. C'est ce qui fait que, par exemple, une maison comme la nôtre, ici, c'est pas une résidence secondaire, quoi. Si t'es pas là un jour où il y a un épisode cévenol, il te faut avoir un copain qui vienne ici et qui surveille, quoi.
Ouais.
Des fois que... Parce que tu peux avoir un effondrement, tu peux... Et j'en ai eu plusieurs fois des dégâts importants, quoi.
Ouais.
Donc, c'est pas de tout repos, c'est magnifique, mais...
C'est pas donné pour toujours.
C'est pas donné pour tout le temps, quoi.
Ouais. Ça se mérite ?
Ouais, ça se mérite.
Ouais, ça se mérite.
Ouais, ouais. Je dirais que au tout début qu'on est arrivé ici, moi ces épisodes cévenols, ça me fascinait parce que c'était d'une telle violence et d'une telle intensité que il y avait un côté. T'étais scotché, c'était fabuleux, quoi. C'était magnifique. Et maintenant que j'habite un peu au milieu des eaux, hein, c'est-à-dire que d'un côté j'ai un torrent qui est là, qui est le torrent où le béal est épuisé, donc c'est un torrent pérenne, hein, qui coule tout le temps, mais qui est impétueux au moment des épisodes cévenols. Et puis de l'autre côté de la maison, juste là, contre la maison, il y a un torrent de crue.
D'accord.
Qui ne coule que quand il pleut fort.
Une sorte de déversoir.
Oui. Alors il va couler 10 fois dans l'année, mais quand il coule, ça donne. Tu vois, tu gardes pas ta bagnole là où j'ai garé la mienne, là maintenant.
Ouais,
hein. Tu la mets plus loin parce qu'elle risque de se faire caillasser.
Sévère. Sévère.
Voilà. Donc si tu veux... c'est vraiment une zone qui est gérée et qu'il faut de temps en temps arranger pour pouvoir la maîtriser. Quoi. Bon, on va se le boire, ce café.
C'est une nature qui s'apprivoise, qui se vit. Quoi. On n'est pas en contemplation ici.
Non. Bon, on peut contempler aussi.
Oui,
des moments.
Mais pas que, voilà.
On n'en a pas beaucoup de temps.
Il y a 4 ans, au printemps, je crois, il y avait eu l'inauguration du pont de Chaldecoste. Un pont qui a une particularité, mais peut-être que...
La particularité, c'est que actuellement, les ponts, on les fait avec du béton. Partout. C'est-à-dire, il y a quelquefois des pierres pour habiller, pour donner un bon look à un pont. Mais en général, on met du béton. Et ça, c'est depuis les années... Depuis la fin de la guerre, hein, c'est vraiment l'envahissement du béton un peu partout, parce que aussi c'est une facilité et une résistance technique qui est vraiment éprouvée. Mais par contre, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on a peu à peu, au cours des ans, perdu les savoir-faire autour de la construction en pierre. Je ne parle pas de pierre sèche uniquement, là.
Parce qu'on va y
puisque
aller.
Là, justement, c'est un pont qui est construit en pierre maçonnée, c'est-à-dire avec un mortier de chaux. Alors, la pierre sèche, il faut bien situer les choses. La pierre sèche, c'est quoi ? C'est un assemblage de pierres sans aucun liant. C'est-à-dire, il n'y a ni sable et ciment, ni sable et chaux, ni terre. Tu ne fais que assembler les pierres, les bloquer entre elles, les coincer entre elles de manière à ce qu'elles ne bougent pas. Donc il y a un savoir-faire là-dessus, dont on reparlera si tu veux en visitant les Bancelles. Je t'expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et ce savoir-faire est bien particulier pour soutenir notamment les murs de terrasse, les Bancelles. Parce que ça présente un gros avantage qu'on a redécouvert après l'envahissement du béton qu'on a connu après la guerre, c'est que c'est un des ouvrages qui sont drainants, filtrants. Alors que un mur en pierre sèche pour une terrasse, quand il est maçonné avec du ciment ou de la chaux, ne laisse pas filtrer l'eau.
Il est en chaux.
Voilà. Donc il y a une accumulation hydrique à l'intérieur des terrasses qui est tellement forte par moment, au moment des épisodes, que ça finit par exploser le mur, même s'il est lié avec du ciment. Or, les murs en pierre sèche, eux, ils vont laisser passer l'eau au fur et à mesure qu'il pleut, même de manière torrentielle, ils vont laisser passer l'eau qui va filtrer entre les pierres et qui ne vont pas bouger pour autant. Ils vont quelquefois, quand il y en a trop ou quand c'est des vieux murs, ils vont se déformer un peu, mais ils resteront. Alors que le mur en béton banché ou en pierre maçonnée au ciment, ils vont finir par se renverser, comme des crêpes.
Premier avantage de la pierre sèche, c'est
le drainage.
Le drainage.
Filtrage et drainage.
On va faire une petite pause.
On va se le boire, le café. Hein.
On va se boire le café.
Quand tu es arrivé ici, ton projet, c'était déjà celui-là, de travailler la pierre sèche, ou c'est venu comme ça, en étant ici, et parce qu'il fallait remonter des murs, etc. Comment...
Ah non, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Comment dire moi, je viens de cette période de 68, et donc j'étais un des militants 68-arts de l'époque, hein, oui. quand j'étais jeune. Et il y a eu, je passe sur les détails, mais il y a eu un moment où avec ma femme, on habitait à Montpellier, au tout début qu'on était ensemble, et... j'avais quitté les études, la fac.
Où tu faisais quoi, si c'est pas indiscret ?
Où j'étais en histoire et géo.
D'accord.
Arrivé en fac, je ne savais pas du tout ce que je ferais. J'étais un révolté. J'ai fait partie des gens qui ont même réussi à louper le bac en 68.
Faut le faire, là.
Ça, c'est une performance.
Ouais, mais c'est...
Alors là, on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel.
C'était presque... ça me plaisait pas. À l'époque aussi, il faut penser à un truc, c'est que la majorité, c'était à 21 ans, c'était pas à 18 ans, et on était sous l'autorité de ces vieux. Et moi, on me disait, non, mais tu passes ton bac, point. Comme mon frère, lui, avait été matheux, etc., il avait eu très tôt son bac et avec des bons résultats, moi, il fallait que je fasse des maths aussi, alors que j'en avais rien à cirer. Et donc, on m'imposait quelque chose que je ne voulais pas. Et donc, j'ai soigneusement loupé mon bac en juin 68. On m'a envoyé dans une boîte à bac pour vraiment que je l'ai en septembre au repêchage. Et j'ai absolument rien foutu et fait tout ce qu'il fallait pour ne pas l'avoir. J'avais pas envie, quoi. C'est tout. J'étais dans un rejet complet, quoi. Et donc, évidemment, après, je me suis retrouvé sans bac. Qu'est-ce que tu fais ? T'es quand même encore mineur et on t'oblige à suivre tes études. Alors là, mes parents ont accepté à ce moment-là que je passe en philo. Et l'année d'après, j'ai eu mon bac. J'ai fini par avoir mon bac en philo. Puis je suis allé faire des études d'histoire et géo. Je suis resté pendant 2 ans. Et puis dès que j'ai eu 21 ans... Mais le lendemain même, je suis allé à l'Agence pour l'emploi, à Montpellier.
D'accord.
Et j'ai demandé du boulot.
Et dans quel secteur ?
Je m'en foutais.
C'est marrant.
Je m'en foutais. À la NPE, ils me font remplir des papiers. Ils me disent, écoutez, on vous donne 2 adresses, mais on vous prévient, c'est dans le bâtiment. Moi, j'étais en 68 art éprouvé. Le bâtiment, ça ne me gênait pas. Le petit prolétariat ne me gênait pas du tout, au contraire, hein, ça m'attirait plus qu'autre chose. Et donc, Il m'envoie dans... Il me donne deux adresses, et la première a été la bonne. J'ai dit, ça y est, je...
Je suis autonome.
Je suis autonome, j'ai plus besoin de sous, je suis heureux.
Cette aventure-là autour de la pierre sèche, est-ce qu'elle est propre aux Cévennes ou ça s'est produit en même temps ailleurs dans le monde, en France ou ailleurs ?
En fait, il y a des décalages, bien sûr. Mais en France, ça a commencé à germer dans les années 90. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait quand même pas mal d'années après la guerre d'usage de béton, d'usage intempestif de béton, pour dire, pour qu'il y en ait qui disent un jour, bon, ben, ça va le béton pour certaines choses, mais peut-être que pour d'autres, c'est pas bien efficace. Et ce dont je parlais tout à l'heure de drainage de sol, etc., il y a de plus en plus de gens qui ont dit, mais faut arrêter de faire des murs avec du ciment. Il faut se mettre à...
J'ai envie de te demander, mais quelle est donc la limite d'utilisation de la pierre sèche ?
Bon, mais t'aurais du mal à faire la tour Montparnasse en pierre sèche, par exemple.
Mais pour autant, est-ce que c'est 2 mètres, 3 mètres,
4 mais tu as des ouvrages. Un mur en pierre sèche peut avoir une bonne cohérence, une bonne solidité, à partir du moment où il est bien dimensionné. Et ça va varier selon sa hauteur, la hauteur de l'ouvrage. Hein ? Selon aussi le type de matériaux que tu utilises. Tu as des matériaux qui sont plus friables que d'autres, plus résistants que d'autres. Tu vois, il y a tout ça qui intervient. Et d'ailleurs, on a beaucoup travaillé là-dessus avec des ingénieurs, justement, pour savoir comment dimensionner un mur en fonction de sa hauteur. Voilà. Et donc, ce qui est courant dans les Cévennes que tu vois partout, c'est des murs qui vont de, mettons, de 50 cm jusqu'à 2,50 m, 3 m.
Et puis, de hauteur.
De hauteur. Mmh. Et puis, tu en as beaucoup aussi qui font 4 m. Et puis, tu en as quelques-uns, alors plus haut, qui vont aller jusqu'à 5 m, 6 m, 7 m. Tu vois, ça existe. Mmh. Mais moi, dans ma pratique, j'en ai fait de 4 m. Pas mal. Mais après, c'est surtout des murs allant de 1 mètre à 3 mètres 50. Quoi. Mmh,
d'accord. Donc on peut construire une maison. Une maison individuelle.
Ça n'a aucun intérêt.
Ah, pourquoi ?
Parce que une maison individuelle, tu as besoin de l'isoler. Mmh. Et on s'en aperçoit de plus en plus. L'isolation, c'est vachement important. Mmh. À la fois pour chauffer ou pour te protéger de trop de chaleur. Mmh. Hein ? Donc, une maison, en fait, une maison en pierre, tu vas l'enduire. Les anciens, quand ils faisaient leur maison en pierre, ils ne la faisaient pas en pierre sèche. Ils la faisaient avec un mortier de chaux. Mmh. D'accord. Et s'ils avaient les moyens, ils faisaient un enduit extérieur et intérieur. Par contre, exception, c'est pour certains ouvrages qui ont besoin d'être très bien ventilés, notamment beaucoup d'ouvrages agricoles, que sont les granges, les bergeries, les étables, les clèdes, hein, les séchoirs à châtaignes, tout ça. Évidemment, ça a besoin d'être ventilé, donc tu le faisais en pierre sèche. Mm-hmm. Je vous montrerai à côté, j'ai une grange et j'ai une clède, c'est tout en pierre sèche.
D'accord.
Alors que cette maison ici, elle était faite avec un mortier de chaux. Alors, dans des zones, dans les vallées cévenoles schisteuses, c'était difficile de se procurer de la chaux. Mmh. Alors, tu as des zones très loin de tout, où même les maisons étaient faites en pierre sèche. Mmh. Mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à Bar des Cévennes ou à Saint-Jean-du-Gard, ou dans un endroit où il y avait un four à chaux, chercher de la chaux pour avoir un liant.
Mmh. D'accord.
Donc, actuellement... on utilise la pierre sèche pour des maisons d'habitation pour du décor, en parement. Mais la pierre sèche en tant que telle a beaucoup plus de valeur pour des aménagements extérieurs que sont les murs de soutènement, les murets de routes, de chemins, etc., qui, eux, voient passer, filtrer de l'eau. Oui. Alors que la maison, elle est en élévation. Elle est hors de l'eau. Donc, à la limite, les bases de ta maison, qui vont devoir conduire de l'eau, tu les feras en pierre sèche. Mais au-dessus, tu vas dans toute la partie habitable, tu vas utiliser de la chaux.
Donc, on ne perd pas de vue ce qu'on disait au début de l'entretien, c'est que la construction en pierre sèche est liée à la nécessité de drainer. C'est vraiment l'élément qu'il faut retenir dans le principal...
Oui, je dirais que c'est la première motivation qui va inciter à la fois un propriétaire, mais aussi le maçon, à bâtir en pierre sèche.
D'accord.
Après, il y a plein d'autres atouts pour la pierre sèche. Sur le plan écologique et biodiversité, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'on va réutiliser les pierres d'un vieux mur pour rebâtir le suivant, parce qu'il s'est cassé la figure, mais on va recycler les pierres éternellement. Même les pierres qui sont un peu brisées, un peu cassées, on va les recycler à l'intérieur du mur. Hein. Donc, il y a un côté écologique magnifique, c'est que non seulement on n'utilise pas de sable et de ciment qu'on va faire venir de je ne sais où, mais on utilise la pierre sur place en recyclant les matériaux. Alors ensuite, il faut ajouter le côté esthétique. On est fatigué de voir des murs en béton, en ciment qui vieillissent très mal, qui sont fissurés, fendus de partout, etc. Alors qu'un mur en pierre sèche, s'il bouge un peu, ça ne se voit pas. Il y a un côté naturel dans le comportement d'un mur en pierre sèche, dans son environnement, sa construction. Et puis, il y a aussi le côté patrimonial, qui est très important pour des régions comme la Lozère, par exemple, qui ont un patrimoine fabuleux. Ben, il faut arriver à le promouvoir, le mettre en valeur et le conserver. Donc, pour ça, il faut conserver des savoir-faire qui étaient en train de disparaître.
Tu as arrêté ton activité professionnelle ou tu continues à...
Alors moi, j'ai arrêté parce que je suis à la retraite donc depuis maintenant 4 ans. Et
tu transmets
je continue en fait d'agir au sein de pas mal d'entités, en priorité avec les artisans bâtisseurs en pierre sèche.
On en dit deux mots, là, c'est ou quatre.
Mais pour dire, moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai complètement arrêté le côté travail sur chantier, et je me suis entièrement consacré plutôt à aider au développement de la pierre sèche par le biais des ABPS, mais aussi... je m'occupe pas mal, alors c'est un autre secteur de mon activité, mais qui va avec. J'ai aussi travaillé beaucoup dans la couverture, la lauze. Et donc je continue là-dessus à essayer d'initier et de travailler à la création d'une filière autour... Enfin, la création, elle existe, mais plutôt à la structuration d'une filière autour de la lauze de schiste. Donc je bosse pas mal là-dessus, avec la chambre de métier. On en reparlera après, si tu veux. Une lauze, c'est une plaque qui va servir de couverture à une toiture.
Et qui est en quelle sorte de pierre ?
Alors, elle peut être en schiste, comme elle peut être en calcaire, comme elle peut être en gneiss. C'est différents composants géologiques.
D'accord.
Et qui étaient à l'époque utilisés selon la région pour les constructions. Donc en fait, il faut se dire que, pour résumer, jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'au même au 16e, 17e, les toitures dans les villages et dans les masses étaient souvent couvertes de chaume. Et puis en fait, la lauze est apparue à partir du 16e, 17e, surtout, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gisements intéressants et que c'était beaucoup plus durable
qu'une toiture en, en chaume, même si ça a beaucoup de valeur et beaucoup de beauté, et qu'il faut aussi sauvegarder cette filière, parce que c'est un savoir-faire rare, et, et c'est dommage de le perdre. Mais c'est vrai que ça a moins de durabilité. Une toiture bien faite en loz peut durer 200 ans sans aucun problème.
Oui, alors que...
Si elle est entretenue, c'est-à-dire il y a de temps en temps, il y a peut-être certains travaux à faire, d'étanchéité ou autre, mais... une loze à changer, ou une étanchéité de souche, ou un faîtage à refaire, évidemment. Mais un toit bien fait, en loze, peut, peut durer 200 ans, si les lozes sont de bonne qualité. Donc on s'est aperçu de ça au moment de, de la Renaissance. Et un exemple en Lozère, c'est Marvejols, Florac, Mende, qui sont couverts de loze. Et puis, sur l'Écosse calcaire, eh ben, c'était de la loze calcaire. Alors que dans les vallées, c'était plutôt de la loze de schiste. Et il y avait des carrières qui s'ouvraient un peu partout pour produire le matériau et l'acheminer vers les, vers les maisons qui étaient en construction. Voilà. Et il y a eu un moment où vraiment, il était temps dans les années 70 de dire « arrêtez avec la... » La tuile en ciment, la loze existe. Il y a encore des bassins de production importants et il faut les utiliser. Et il y a encore des savoir-faire, il faut les employer aussi, il ne faut pas les perdre.